Bon, ben dans quelques heures, Kim Jong-un, le chef de la Corée du Nord, président de la Corée du Nord, va rencontrer à Singapour le président Donald Trump. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard, est-ce que tu as préparé le pop-corn pour regarder ça ce soir?
Ben d'abord, dis-nous, là, c'est à quelle heure, c'est notre heure?
Ils se rencontrent à 8 heures, c'est-à-dire ils sortent de leur hôtel à 8 heures.
À 20 heures.
Notre heure, c'est 20 heures parce qu'il y a 12 heures de décalage. D'accord. Et normalement, à 9 heures, ils vont se rencontrer. Donc les caméras vont être là, etc. Ça dure une quinzaine de minutes. Ils vont avoir ensuite
comment
à 9h... Les caméras.
Ah oui.
Non, quand même.
Okay.
On sait jamais avec Donald Trump.
Très bien.
Mais ça devrait durer plus que 15 minutes, toute cette rencontre au total. Donc de 9h15 à 10h, ils se rencontrent seuls à seul. Ils laissent juste 45 minutes ensemble. Soit ils osent même pas les laisser une heure ensemble.
Ça, c'est juste eux et les traducteurs.
Exact.
Mais aucun conseiller?
Non. Ils entrent à 10h du matin, les conseillers.
À 10h du matin. Là, tu nous as dit 22h, 21h15 ce soir.
Regardez, on est à l'heure. À notre heure, ouais, veux-tu que je le fasse?
Ah,
on
ne
va pas se mélanger. On
va
se mêler.
Non. Notre heure, tu dis 20h ce soir.
À 20h ce soir, ils sortent de l'hôtel.
Très
à 21h ce soir, ils se rencontrent, ils se serrent la main.
Voilà.
À 21h15, première réunion entre les deux, et ça dure 45 minutes.
Ouais.
Et donc, à 22h,
voilà.
Là, il y a les conseillers qui rentrent pendant une heure et demie environ.
Okay.
Et donc, à 23h30, c'est le lunch. Et puis ensuite, l'horaire est assez libre. Ça dépendra de combien d'alcool qu'ils m'ont repris, j'ai l'impression.
Okay. Ça va dépendre surtout si ça progresse
bien. Théoriquement, il y a une conférence de presse à 4 heures du matin à notre heure. Et à une conférence de presse. Mais ce qu'on sait, c'est que, en théorie toujours, Donald Trump doit quitter l'île où est la réunion. On sait que c'est dans une île qui s'appelle Sentosa. C'est dans un grand hôtel de luxe 5 étoiles qui s'appelle l'hôtel Capella. Donc, il doit quitter cette île, donc l'hôtel aussi, à 6h30 du matin, notre heure. Et
okay,
il va s'envoler à 7h du matin, il prend l'avion.
Donc ça veut dire que demain, alors ce soir, on va pouvoir voir les débuts, là.
Oui.
Mais quand on se lève demain matin, le sommet est terminé.
C'est terminé et puis on sait ce qui s'est passé, grosso modo, les premières analyses sont sorties.
Alors dis-moi, quels sont, mettons, les deux ou trois scénarios les plus probables d'après toi?
Oh, moi, je pense que Trump veut gagner le prix Nobel de la paix et je pense qu'il veut bien paraître. C'est pas sûr que tout se passe bien, mais étant donné que les équipes ont travaillé à ça, que des deux côtés, on a intérêt à ce que ça se passe bien, Donald Trump pour la politique intérieure, pour sa propre propagande politique, il y a intérêt à ce que ça se passe bien. Kim Jong-un aussi, il joue gros, il sort de son pays il va rencontrer le président des États-Unis. Ses parents ne sont pas arrivés à faire ça. Son père et son grand-père ne sont pas arrivés à le faire.
Non, pour lui, c'est une normalisation du statut de l'État nord-coréen.
Déjà, il a gagné beaucoup. Il a gagné en reconnaissance internationale.
Oui.
Il est redevenu fréquentable. Mm. C'est énorme ce qu'il gagne, même si le sommet va mal.
Il gagne
une
légitimité internationale.
Exactement. Hein? Et ça, c'est énorme ce qu'il vient de gagner là. Puis aux yeux de sa propre population, il gagne quelque chose. Donc, tous les deux ont intérêt à ce que ça se passe bien.
OK, mais concrètement, ça va donner quoi?
Alors, là, ça, c'est quand on rentre dans les sujets, tu vois. Moi, je m'attends à ce qu'ils annoncent un traité de paix. Ça serait le minimum, si tu veux, un traité de paix.
Parce que jusqu'à maintenant, depuis la fin de la guerre...
Ils sont officiellement en guerre.
C'est un armistice seulement.
C'est ça. Et donc, les États-Unis vont dire, on va ouvrir une ambassade à Pyongyang.
Ouais.
Et puis, la Corée du Nord va dire, on va ouvrir une ambassade à Washington.
Okay.
Déjà, ça serait beau.
Et la Corée du Sud, évidemment, serait signataire de ce traité de paix.
Il faut qu'ils soient très signataires du traité de paix.
OK, aussi. Mais sur la question nucléaire, moi, je veux savoir.
Oui, je sais. Là, ça va poser plus... Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un calendrier. Avec peut-être une levée de sanctions progressives et puis une supposée dénucléarisation progressive et puis des discussions, etc. Je pense que c'est à ça qu'ils vont en venir probablement. Ça serait, en tout cas, ça semble être le plus raisonnable.
Est-ce que tu crois que Kim Jong-un pourrait accepter de renoncer à l'arme nucléaire au terme d'un processus?
Regarde, qu'il accepte, c'est une chose. Qu'il le fasse, c'en est une autre. Moi, je ne suis pas du tout sûr que les Nord-Coréens se débarrassent réellement de leurs bombes nucléaires.
Moi non plus.
Je ne le crois pas, en fait, pour le moment. Je ne vois pas comment ça peut être vérifié. À moins que les Américains arrivent avec une telle enquête, des telles vérifications.
Des inspecteurs.
Des inspecteurs partout.
Mais les Nord-Coréens ne permettront pas ça. Et la Chine ne permettra pas ça.
La Chine ne voudra pas non plus. Moi, je pense qu'au mieux, on va arriver, et éventuellement au bout de ce processus, une sorte de modus vivendi en disant, écoutez, vous exportez pas votre technologie nucléaire, ni votre technologie de missile, vous développez pas davantage, on gèle ça, vous enlevez quelques bombes, et puis... on va commercer avec vous et vous devenez civilisé, s'il vous plaît. Parce que c'est pas vraiment civilisé, ce qu'ils ont fait depuis un an en Corée du Nord, et même avant, hein, on peut s'entendre là-dessus. Tu me diras que Trump non plus est pas nécessairement civilisé. En tout cas, c'est ce que Justin Trudeau te dirait avec le sommet d'hier, mais ça, c'est peut-être une autre question.
C'est une autre histoire. Voyons, enfin, ce soir, bref, on pourra observer ça à partir de 20h sur nos écrans.
Oui, ça va être vraiment intéressant à suivre. Bon. Et il faut voir aussi, tu sais qu'il y a d'autres qui ont été en coulisses. Tu parlais de la Chine, très proche de la Corée du Nord. Elle a des intérêts économiques et géostratégiques évidents, mais il y a toute la Corée du Sud. Il y a toute la question de la réunification qui va être là aussi. On va en parler. Est-ce qu'on réunifie ou pas les deux Corées? Comment on le fait? On va probablement aller dans ce sens-là. Le Japon, qui est très intéressé à ça avec sa sécurité militaire aussi lui. Donc, il va suivre ça de près. Et la Russie, qui est vieil allié de la Corée du Nord et qui a beaucoup d'intérêt, enfin, qui s'alive aussi à l'idée d'aller investir là. En Corée du Nord.
On verra bien. On en reparle demain. Parle-nous rapidement de ce bateau d'immigrants illégaux qui a été refusé par le nouveau gouvernement de droite de l'Italie. Là, ils demandent à ce que ce soit l'île de Malte qui prenne le bateau, là, dit les
illégaux. Ah non, mais ça fonctionne pas. Malte a refusé. Il y a 629 immigrants à bord du navire Aquarius qui a été affrété par une ONG française, SOS Méditerranée. Et c'est des gens qui ont été secourus en mer, donc au large de la Libye. L'Italie, comme tu l'as dit, les a refusés. Malte, ensuite, les a refusés. Et finalement, c'est l'Espagne qui les a acceptés. Ils vont accoster au port de Valence. Mais c'est sûr que ce genre de crise va s'accentuer en Europe. Je te signale aussi que l'Espagne a un gouvernement minoritaire faible. C'est pas sûr qu'ils puissent accepter ce genre de bateau pendant très longtemps. Et tu sais, je me dis, mais écoute, pourquoi est-ce qu'ils les ont pas remis en Libye? Tu sais, je veux dire, écoute, là, ils les ont sauvés en mer.
Ce sont des ressortissants
qui viennent, mais qui sont passés par la Libye et qui viennent donc d'Afrique subsaharienne. Ouais. Et tu dis, bah oui, mais écoutez, là, est-ce qu'on vous devait nécessairement aller en Europe? Tu sais, en fait, c'est toute la question du statut des réfugiés. Est-ce qu'on doit vraiment avoir des réfugiés? On doit en accepter combien? Et puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe exactement?
Quelles sont les responsabilités des pays par lesquels ils transitent?
Mais tu sais, on est très
chrétiens.
Mais il n'y
a pas d'État digne de ce nom en Libye. Il n'y a pas d'État digne de ce nom.
Il y a deux entités gouvernementales, plus ou moins, mais remarque que c'est en train de s'arranger en Libye. À un moment donné, on aura le temps d'en parler un peu plus en profondeur, mais il y a des élections qui sont prévues. Donc, finalement, la Libye semble sortir la tête de l'eau.
On en reparle demain, en tout cas, de cette affaire et de ce sommet.
On a très
hâte
de voir ce qui va se passer.
Oui, absolument, absolument.
Et personne n'ose prédire ce que Trump va faire, évidemment.
Non, ça c'est sûr. Loïc Tassé, merci.
Au revoir.
Dans un instant, on parle de microbes. Enfin, est-ce que nos enfants sont trop propres? Ou est-ce que les laisser se salir? Est-ce que les laisser se salir un peu, manger un peu de terre, manger un petit verre de terre une fois de temps en temps, un petit peu de sable dans le bac à sable, est-ce que ça pourrait pas être bon pour leur système immunitaire? Il paraît que oui. Il paraît que parfois, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un enfant qui revient un peu sale de l'extérieur parce que ça va renforcer son système immunitaire. Dans un instant.